Sol majeur.
Sol majeur.
Sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Mike Ibrahim, c'est son nom. Martiniquais de cœur et parisien de naissance, il se définit comme un Français moyen, à la fois métissé et déraciné. Un vrai Français d'aujourd'hui, qui a dans les poches des origines malgaches, comoriennes, bretonnes et afro-américaines. Un problème ? Que nenni, nos problèmes pour Mike Ibrahim, qui pose sur la table un premier album Polydor, pop sucré. Peut-être pour faire passer la pilule politique de certaines chansons. Album étrangement intitulé La Route du Nord et qui annonce une série de concerts avec un passage à la Cigale à Paris le 13 octobre.
Pourquoi étrangement ?
Pourquoi étrangement ?
Ouais.
Ça sera ma deuxième question. J'en ai une première. D'abord, je vous dis bonjour, Mike.
Bonjour.
Et la première, c'est est-ce que c'est votre vrai prénom, Mike ? Moi, ça me semble étrange, ça, par contre.
Ben, en fait, mon grand-père est américain. Donc, ma mère m'a appelé Michael, un peu pour marquer cette ascendance américaine. Et voilà, donc, quand j'étais petit, on m'appelait Michael, en fait, parce qu'on... On connaissait pas vraiment la raison de mon prénom. Et puis un jour, j'ai demandé à ma mère pourquoi elle m'avait appelé comme ça. Elle m'a expliqué, mais en fait, c'est Michael par rapport à ton grand-père qui est américain, etc. Donc j'ai dit, bah, dorénavant, faudra m'appeler comme ça.
Oui. C'est bien, ça sonne anglo-saxon. Ça vous déplaît pas, ça ?
Ouais, alors après, le truc, c'est que moi, le côté anglo-saxon, encore une fois, c'est quand j'étais enfant, c'était plus une. Voilà, savoir d'où je venais. Qui j'étais, qui était mon grand-père, qui sont mes grands-parents, etc. C'est ça qui m'intéressait. Après, le côté anglo-saxon, c'est secondaire.
Il faut faire chanteur, c'est pas mal. Remarquez, dans Mike Ibrahim, c'est ce qui sonne le plus anglo-saxon. Est-ce que vous validez cette formule de français moyen ?
Bah ouais, je trouve que ça remet un peu les choses à leur place, puisqu'on parle... beaucoup du métissage et de la diversité, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Et bon, voilà, moi, ma façon de voir les choses, c'est que c'est plutôt quelque chose de normal et qui dans laquelle se reconnaissent beaucoup de Français, en fait. C'est pour ça que c'est un petit peu provocateur quand je dis français moyen, mais c'est pour ça que je le dis
comme
ça.
Qu'est-ce que vous mettez exactement dans ce mot moyen ?
Mais c'est-à-dire que je suis ni plus ni moins qu'un Français. Voilà ce que je mets dedans. C'est-à-dire que les gens vous disent, quand vous dites que vous êtes métissé, etc., ils vous disent « Ah, c'est formidable !» Enfin, comme si c'était quelque chose de plus formidable que voilà, le français d'à côté, dont le métissage ne se verrait pas, mais qui a peut-être des origines espagnoles ou hollandaises ou polonaises, et qui est aussi métissé et qui porte en lui aussi plusieurs cultures. Donc voilà, donc je suis pas. C'est une façon de dire aux gens que je suis pas différent d'un autre Français et que en fait, pour moi, la France d'aujourd'hui, voilà, c'est une France de la diversité. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, qui commence à être un peu galvaudé, voilà, c'est important d'en avoir conscience et non plus de pas mettre le métissage au-dessus de quelque chose parce que c'est pas un modèle, c'est pas...
On ne devrait pas s'étonner qu'il y ait des Français métissés. Point,
exactement,
en fait, c'est
voilà.
Ça. Alors, premier album, La Route du Nord, c'est ce titre, oui, c'est vrai, qui me sonne. Je me suis dit, tiens, s'il y a une connotation nord-sud, là, pourquoi ce titre ?
Non, alors voilà, c'est intéressant parce que justement, donc, vous voyez le rapport nord-sud donc, à travers un prisme qui est le vôtre. Moi, au départ, La Route du Nord, c'est une chanson de l'album. Qui parle d'un couple qui se désagrège, qui est dans une voiture qui roule vers le nord. Donc ça peut être le nord de la France, c'est aussi la route du nord de la Martinique que j'ai beaucoup prise, qui est assez volcanique, qui peut être parfois brumeuse. En fait, dans tous les pays, il y a une route du nord, une espèce de route qui va vers l'inconnu, qui traverse les brumes. Une route, voilà, qui figure un trajet, un déplacement, un point magnétique par lequel on est appelé.
Mais il y a toujours aussi une route du sud et vous avez choisi de parler de la route du nord.
Ouais, ouais, parce que voilà, en même temps, il y avait aussi l'idée qu'avec cet album, je trouvais enfin mon nord artistique. Voilà, je savais enfin qui j'étais artistiquement, où je voulais aller. Ça devenait d'un seul coup clair avec cette chanson. Donc c'est avant tout ça. la route du Nord. Et puis après, effectivement, je me suis rendu compte que ça recoupait une autre thématique qui est présente dans l'album, qui est celle de l'immigration, du rapport Nord-Sud, qui est notamment présente dans la chanson Le Voyage.
Alors, album où se croisent des chansons d'amour, qui se terminent mal apparemment, des chansons d'humour aussi, pas forcément agressives, mais qui disent des petites choses en filigrane, faut écouter entre les lignes. Je pense à la chanson La France qui se lève tôt, qu'on va écouter tout de suite.
Oui.
Vous nous la présentez ?
Oui, bah en fait, c'est une chanson que j'ai composée suite aux élections présidentielles. Et on avait beaucoup utilisé cette expression, la France qui se lève tôt. Et voilà, moi, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'essayer de dire dans une chanson qui est vraiment la France qui se lève tôt. Donc voilà, j'ai essayé de faire une sorte de Paris s'éveille moderne et en même temps, voilà, de mettre une petite dimension sociale et politique dans la chanson.
Mike Ibrahim en sol majeur sur RFI.
5h35 comme tous les matins, les yeux froissés. Y'a pas foule dans le RER et dans les sacs, ça sent un peu le mafé. Y'a des Alain, des Rachid, des Mam et des doudous aux mains gercées. À qui on a toujours dit c'est clair, le monde appartient au premier levé. Mais ça n'a pas de sens, ce peu de reconnaissance pour la France qui se lève tôt. Moi tout patraque, j'ai mon pack d'attaque, même si je claque des dents et des os. J'ai un rendez-vous super important, faut pas que je me rate, faut que je sois costaud. J'ai pris tout ce qu'il faut, parce qu'il faut ce qu'il faut, c'est comme il dit ça. Il dit toujours c'est clair, le monde t'appartient, faut juste le mériter, coco. Mais Dieu, quelle indécence, cette putain de condescendance pour la France qui se lève tôt. Ouais, pour la France qui se lève tôt. J'arrive pile à l'heure, le mec me sort son sourire en toc et me prend de haut. Il dit qu'avant l'heure c'est pas l'heure et qu'après c'est plus l'heure et que c'est vraiment pas de peau. Ça devient flou dans ma tête, je tremble, les somnifères, ça rend parano. Y'a comme un Big Bang, le buzz du réveil me sort de mon rêve en sursaut. Devant la France qui se lève tôt, lève tôt, lève tôt. Ouais, la France qui se lève tôt. Se lève tôt. 5h35 comme tous les matins, les yeux froissés. Y'a pas foule dans le RER et dans les sacs, ça sent un peu le mafé. Y'a des Alain, des Rachid, des Mam et des doudous aux mains gercées. Toujours dit les premiers levés sont souvent les derniers couchés. L'égalité des chances descend à la prochaine correspondance pour la France qui se lève tôt.
Une chanson donc faussement bien élevée. Hein. C'est ce qui vous définit un peu, Mike Ibrahim. Hein.
Ouais, je trouve que c'est intéressant comme définition.
La France qui se lève tôt, extrait du premier album de notre invité Mike Ibrahim, qui passe par l'écriture et la chanson pour dire, cool Raoul, ses multiples origines.
Que savez-vous de vos ancêtres ?
Qu'est-ce que je sais de mes ancêtres ? Pas grand chose à vrai dire. Je peux remonter qu'à mes grands-parents. Je sais que donc j'ai du côté de mon père, j'ai une grand-mère malgache, un grand-père comorien. Mon père est un enfant malgache qui a passé la première partie de sa vie à Madagascar et qui ensuite a été adopté par une famille française. Et c'est comme ça qu'il a eu l'opportunité de rencontrer ma mère, puisqu'il a vécu à Paris par la suite. Et ma mère est le fruit de la guerre, en quelque sorte, puisque mon grand-père est un homme de Caroline du Sud, qui faisait partie de l'armée américaine, qui était GI, qui a participé au débarquement, et voilà, qui a rencontré ma grand-mère, qui était bretonne. Et donc ma mère est née de cette union. Mon grand-père a reconnu ma mère, et ensuite il est reparti vivre aux États-Unis. Je crois qu'visiblement il avait une deuxième famille là-bas. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais.
C'est un bon démarrage, hein. Il y a de quoi faire déjà, des chansons ouais, peut-être. C'est en cours. Vous naissez, vous, à Paris en 1975, Mike
quelque
et Brian,
chose comme
quelque
ça,
chose
ouais.
comme ça. Et puis, à l'âge de 2 ans, maman vous prend sous le bras et elle décide de partir en Martinique. C'est une décision qui peut paraître étrange, d'ailleurs.
Oui. En fait, elle... ma mère, je pense, s'est beaucoup cherché pendant son enfance et son adolescence, parce qu'elle a grandi dans la France d'après-guerre. Elle avait deux frères qui n'étaient pas de la même couleur qu'elle, puisqu'ils étaient demi-frères, en fait. Donc, un foyer assez pauvre. Ma grand-mère faisait des ménages. Ma mère était une enfant métisse dans ce foyer monoparentale avec deux enfants blancs et elle café au lait, donc pas évident dans ce contexte d'après-guerre. Et je pense que ma mère a vécu assez difficilement son entrée dans la vie, et quand elle a été plus autonome et qu'elle a commencé à faire des études, elle s'est rapprochée en fait de la communauté antillaise et notamment de tous ces enfants d'Antillais, de la bourgeoisie antillaise, en fait, qui avaient la chance de pouvoir venir faire leurs études en France, enfin, en tout cas en métropole. Et voilà, et comme ça, elle s'est rapprochée de la communauté antillaise. Et le jour où la question s'est posée...
Elle se sentait plus proche de cette communauté-là.
En fait, les seuls... on va dire, la seule possibilité, je pense, pour elle d'échapper à sa condition sociale et en même temps de pouvoir discuter avec des gens qui lui ressemblent un peu. À l'époque, il n'y avait que les Antillais qui étaient des Noirs métis comme elle. Des enfants qui lui ressemblaient vraiment issus de mariages entre des soldats. Enfin, il n'y en avait pas tant que ça. Je pense qu'il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas énormément de cas. Donc voilà, donc finalement, je pense que la communauté antillaise était la communauté la plus évidente et puis qui l'a accueillie. Parce que c'est vrai que du coup, elle avait un type métissé, plutôt antillais. Donc je pense que le rapprochement a été assez naturel.
Oui.
Et voilà, et quand la question s'est posée, elle s'est séparée de mon père, elle se demandait ce qu'elle allait faire. Ses amis lui ont dit, mais tu devrais venir en Martinique, il y a du travail, ce sera bien pour tes enfants, il y a le soleil, la mer.
Alors
etc.
Est-ce qu'elle, en réglant un problème d'identité, elle vous en a posé un, parce que vous, donc vous arrivez en Martinique, vous grandissez, je crois, à Casse-Pilote, au nord de l'île, et vous vous définissez, est-ce qu'il faut vous définir comme Martiniquais de cœur? Qu'est-ce que ça vous pose comme questionnement identitaire?
Je pense que plutôt que de me poser un problème, je pense qu'elle en a plutôt, elle m'a plutôt aidé à résoudre un éventuel problème identitaire, parce que je pense que si j'avais pas grandi aux Antilles, j'aurais pas aussi bien compris l'idée de métissage, de diversité, puisque voilà, les Antilles sont vraiment le creuset de toutes ces questions-là.
Tout en vous sentant différent quand même de vos copains martiniquais que vous avez.
Oui, puisque effectivement, ma mère étant métropolitaine dans la culture, on est arrivé là-bas, enfin ma mère ne cuisinait pas antillais, elle cuisine toujours très peu antillais, elle parlait pas créole évidemment, donc on était quand même comme en fait des blancs débarquant en Martinique, sauf qu'on était métis. Et donc du coup moi j'étais assez jeune, donc j'ai pu rapidement avec l'école etc adopter et me faire adopter par la culture antillaise, mais effectivement en même temps j'étais assez différent, je parlais pas avec l'accent martiniquais, même quand je parlais français. Donc ça m'a valu une forme de discrimination, en fait, parce que j'étais différent, tout simplement. Mmh. Mais bon, voilà, ça, c'est le cas dans toutes les écoles du monde.
Et puis, il y a donc, de l'autre côté, les origines bretonnes et les origines afro-américaines. Qu'est-ce que vous en avez fait, là aussi? Question qui stigmatise un peu, forcément. Est-ce que vous vous sentez plus américanisé que moi, par exemple?
Je
me sens
pas.
Très américanisé, comme tout le monde.
Je sais pas, je pense que je me sens américanisé par la force des choses, parce que l'impérialisme américain a sévi... depuis très longtemps maintenant, mais je pense qu'on peut dire depuis la guerre, peut-être même avant.
Non, mais pour aller vite, il y a par exemple le nom de Rosa Parks qui apparaît dans une de vos chansons. Est-ce que il faut y voir une sensibilité de votre part spécifiquement afro-américaine?
Non, justement, je pense que ce sont des noms qui appartiennent à tout le monde, en fait. Donc pour moi, il n'y a pas de spécificité, cette culture-là. C'est ce que je disais un petit peu en introduction tout à l'heure, c'est que La diversité, le métissage, le fait qu'on soit influencé par différentes cultures, c'est pas quelque chose qui doit être réservé uniquement aux gens qui sont métissés ou dont le métissage est apparent. Pour moi, la diversité, c'est une richesse qui doit être partagée et entretenue par tout le monde. Même pour celui qui a grandi dans la Creuse et dont c'est le terroir, il doit être ouvert au monde de la même façon.
Alors, vous avez deux obsessions dans la vie, Mike Ibrahim. Peut-être l'identité. En tout cas, on sent que ça travaille du chapeau.
C'est pas une obsession, c'est un art de vivre. Quoi.
Oui.
Ça m'obsède pas du tout. C'est
moi qui ai choisi ce mot. C'était pour en venir à la deuxième obsession, parce que je vois que l'heure tourne comme d'habitude. La deuxième obsession, c'est la musique.
Oui.
Hein, très vite, peut-être vous nous raconterez comment vous en êtes venu à la musique. En tout cas, vous avez programmé en sol majeur les Beatles avec Getting Better.
Oui.
Pourquoi?
Mais parce que les Beatles, c'est super. Et non, mais en fait, il y a une chanson sur l'album qui s'appelle... Oui, c'est forcément une influence. C'est une influence pour tous les musiciens. Il y a une chanson sur l'album qui s'appelle L'Illusionniste qui cite un peu Getting Better. Donc voilà, je trouvais que c'était...
L'Illusionniste, c'est en fait quoi?
Ça parle d'un homme politique, en fait. Voilà.
De qui? Vous êtes bien mystérieux.
De tous les hommes politiques.
D'accord.
Peut-être d'un en particulier, mais après, c'est aux gens de voir s'ils reconnaissent quelqu'un de proche de leur cœur ou pas.
D'accord. Les Beatles, proche de nous, et c'est en sol majeur. It's getting better all the time. Sur RFI et dans le programme de Mike Ibrahim, notre invité qui revient en seconde partie nous parler des Bee Gees et de la pensée rhizome. À tout de suite.